Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Quel roman que ma vie, se dit Napoléon, alors que s'annonçait la fin de la sienne. Oui, je sais, j'ai déjà cité Napoléon hier à l'occasion de l'anniversaire du sacre, mais j'aime Napoléon et cette émission lui doit en partie son titre, Napopopopoléon. Et puis, aujourd'hui, notre premier invité, Michael Inselhog, est anglais. Et non seulement c'est toujours agréable de citer Napoléon à un anglais, mais en plus, question roman, la vie de cet anglais-là laisse rêveur, comme vous allez le découvrir dans quelques instants. Et puisqu'il est question de roman, c'est une romancière que Couve et Chouchou de Papapop, Violaine Huysmans-Kuhn, qui nous rejoindra en deuxième partie d'émission pour parler de sa vie qui est aussi un roman et dont elle fait des romans justement. Et pour finir de vous mettre l'eau à la bouche, laissez-moi juste vous dire qu'il va être question en vrac dans l'heure qui vient des Beatles, d'écriture, d'Orson Welles, de désert, de peinture, de Wes Anderson, des Rolling Stones, de Peter Jackson, en un mot comme en mille, de tout ce qui fait l'essence même de la pop culture. Et comme disait si bien Napoléon, pop pop pop, c'est parti.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Paule.
Bonjour Michael Inselhog.
Bonjour Antoine. Bonjour. Et Charline aussi.
Bonjour.
Et Charline aussi, ben oui, puisque à mes côtés, celle qui ne valide que moyennement ma citation de Napoléon, ma Joséphine à moi, Charline Roux.
Préférez Napoléon ou Bruce?
Les deux, mon
général. Vous avez une heure.
Au menu donc de Pop 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 tout à l'heure, celle que couve et chouchou de Pop 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 depuis 3 ans maintenant, Violaine Huysmans, qui nous rejoindra en deuxième partie. Mais avant ça, Michael Inselhog, ici il existe une question que je couvre en ce qui me concerne depuis 508 émissions. Et cette question c'est...
Pour vous, c'est quoi la pop culture?
Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses Michaelisées, Lindsayesque et même Hoggitive. Et parmi mes préférées, il y a celle de votre ami Wes Anderson.
I think that good art, j'ai l'impression que that is popular,
l'art populaire, quand il est de qualité, et surtout dans le cinéma, moi je ne sais pas comment on le sépare. Comment on dit qu'il y a une culture qui n'est pas pop et une culture qui soit pop, ça je ne vois pas. J'ai vraiment conscience qu'il y a plein de choses en art qui ne m'intéressent pas. Il y a des choses que je trouve vraiment pas bonnes. Mais je ne fais pas vraiment de frontière entre ce qui est populaire, pop, et une autre culture plus élevée.
Donc, pas de véritable frontière entre pop culture et culture tout court, mais pour vous, Michael Inselhog, c'est quoi cette pop culture ?
Well, I admire Wes Anderson.
Eh bien, j'admire Wes Anderson à tel point que je dois avouer que ce qu'il dit, c'est la même chose que ce que je veux dire, parce que c'est vraiment exactement ce que je pense. Je ne sais pas où on pourrait mettre une frontière entre la pop culture et la véritable culture. Mais dans le passé, la pop c'était plutôt pour les jeunes, et que plutôt que pour les vieux, les jeunes avaient leurs doigts appuyés sur le bouton du temps de l'époque, et parfois cela pouvait d'ailleurs dégoûter les adultes. Donc je suis d'accord avec Wes, et je crois aussi que probablement que c'est quelque chose qui part des jeunes et qui vient vers les jeunes. Et que c'est quelque chose qui peut toucher les autres. Et je pense que les teenagers, 20, 21. Mais moi, j'ai presque 80 ans. Et j'ai pourtant l'impression d'être le même que quand j'avais 12 ans. Sauf que j'ai peut-être plus de santé.
Bien, Charline, enfin Joséphine, pardon, valide.
C'est parfaitement circonstancié, Napo.
Merci. Alors la pop, la culture et la pop culture, on va en parler dans la suite de Pop Pop Pop. Juste après, Ah bah d'accord. Enfin, c'est le titre, c'est un morceau des filles du groupe parisien
Ah bah
Junior.
D'accord.
Et...
Comment je désire psychosomatique, bouffée délirante de chaleur, affichée au relevé du compteur, l'extrasystème mélancolique, entre nous deux, entre nous deux, entre nous ça va faire un malheur.
Ah d'accord. Enfin ça c'est le nom hein, du morceau des filles du groupe Junior. Et vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de Pop Culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes donc aujourd'hui avec celui qui est au cœur du réacteur de la pop culture. Oh mais qui est-il et ne fait-il pas trop chaud là où il est? Réponse avec son pop portrait. Alors oui, votre pop portrait Michael, c'est votre portrait bien sûr, mais...
À base de pop, 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 pop,
et c'est signé Joséphine Roux.
C'est pas mal aussi. Aujourd'hui, un invité avec qui il me semble très compliqué de jouer au 6 degrés de séparation. Vous savez, cette théorie qui veut que n'importe quel être humain sur la planète peut être relié à un autre grâce à une courte chaîne de 6 relations humaines. Le but plus ou moins avoué étant de se sentir proche de gens plus célèbres ou plus intéressants que ceux qu'on fréquente quotidiennement. Donc si on applique cette théorie à notre invité, non seulement le nombre de degrés nécessaires se réduit drastiquement, mais en plus, eh ben, si on veut faire une liste exhaustive et sexy, il faut l'équivalent de toute une vie. Sachez donc qu'en présence de Michael Lindsay-Hogg, nous sommes à 1 degré de séparation des Beatles, puisqu'il est le réalisateur de Let It Be, le documentaire qui emmena le groupe jouer sur le toit d'un immeuble, leur dernier concert, ainsi que de bon nombre de leurs vidéos. Un degré de séparation aussi des Rolling Stones, dont il a aussi signé moult vidéos. En gros, partons du principe qu'on est à un degré de séparation de tout ce que la musique comptait de follement hype, hein, puisqu'il était l'homme derrière Ready Steady Go, l'une des premières émissions télévisées britanniques consacrées au rock et à la pop. Un degré de séparation aussi de Jeremy Irons, dirigé dans la série Brideshead Revisited. Un degré de séparation aussi de son patriarche à l'identité restée longtemps cachée. Indice, on lui doit entre autres Citizen Kane. Mais aussi et surtout avec notre invité, nous sommes à 0 degré de séparation puisqu'il est juste en face de nous d'un auteur, d'un réalisateur, d'un dessinateur et peintre qui vaut largement qu'on oublie tous ces degrés.
Sir Michael, puis-je vous serrer la main pour être à 1 degré encore?
So I will be at 1 degree of separation.
Ah. Voilà, mon plaisir.
Merci Michael. Je viens de serrer la main de Michael Lindsay-Hogg. Et je ne vous la lâche pas cette main parce que je vous emmène vers la planète pop. C'est l'heure de votre pop list. Alors nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série culte, Michael Lindsay-Hogg. Pour ce qui est du livre, vous nous avez répondu que vous en lisez tellement qu'il vous est difficile de faire un choix. Et vous avez suggéré votre propre livre de mémoire, hélas, pas encore traduit en français. Ça a pour titre « Luck and Circumstances » et ça a été publié en 2011. Charline, bien que vous ne l'ayez pas lu, donc je suis sûr que vous pouvez quand même nous en dire un mot. Vous qui savez si bien que tout dans la vie n'est question que de chance et de circonstances.
De notre rencontre, Antoine.
Oui.
L'auteur que je qualifierais de vif, intelligent et drôle, il raconte comment il s'est frayé un chemin dans le monde mystérieux et séduisant dans lequel il vit, rencontrant alors qu'il n'était enfant que la comédienne Marion Davis, l'homme d'affaires William Randolph Hearst, jouant en cache-cache avec Olivia de Havilland, servant des boissons à Humphrey Bogart et discutant de la vie avec Henry Miller.
Pas mal.
Tout simplement.
Programme, oui. Alors, Sir Michael, auriez-vous l'amabilité de nous en lire un paragraphe, s'il vous plaît?
Ah. The piece I'm going to read.
Ce que je vais vous lire comme extrait.
is not about my mother, Geraldine
ne
Fitzgerald,
parle pas de ma mère
or, any of her famous friends,
ou de ses amis célèbres.
It's really about the,
c'est en fait,
the Beatles concert on the roof,
ça parle du concert des Beatles sur le toit.
Which was, something that I thought would be a good idea.
Et j'ai pensé que c'était une bonne idée que ce soit que ça existe, je me rappelle.
Working on their album,
ils travaillaient sur leur album et nous étions les seuls qui permettaient de tourner pendant qu'ils travaillaient. On ne savait pas ce que le film serait et je me suis dit que c'était bien, que ce serait d'être, de jouer sur le toit. Ils ne voulaient pas et puis ils ont accepté.
On vous écoute.
So, on page 143 of the
c'est
book,
la page 143 hein, de mon livre.
Il y a au moins 143
says,
pages.
Voilà ce qu'on peut lire.
The concert on the roof was the last time the Beatles ever played together to any kind of an audience. This was their final performance, their goodbye, although none of us knew it. And the wonderful thing was that they were happy. Dispute and rancor forgotten. In the 40 minutes we were up there on that cold winter's day, they rocked and rolled and connected as they had in years gone by. Friends again. It was beautiful to see. When it was over, John stepped to the mic and said, I'd like to thank you on behalf of the group and ourselves, and I hope we passed the audition.
Merci Michael. Harold, vous nous résumez.
Le concert sur le toit, c'était la dernière fois que les Beatles ont joué ensemble devant un public. Leur dernier concert, leur adieu. Mais nous ne le savions pas. Ce qui est fou, c'est qu'ils étaient heureux. Les disputes et les rancœurs étaient oubliées. Pendant ces 40 minutes sur scène, en ce glacial jour d'hiver, ils ont tout donné à leur public, comme avant. Des amis, de nouveau. Comme c'était beau à voir. Et à la fin, John a pris le micro et il a dit « Je voudrais vous remercier de notre part à tous. » Et j'espère qu'on l'a réussi, cette audition.
Merci Harold. Alors Michael Lindsay-Hogg, je ne vous demande pas si ce livre est remarquable, ce qu'il est certainement, mais pourquoi vous l'avez choisi ?
To write a memoir ?
Or to choose this book to read from.
Oh,
today.
Oh, well...
De lire un extrait de ce...
Because
de ce
I love it.
Parce que je l'aime.
So, I also have recently read
aussi récemment,
in English, the title is The Order of the Day,
j'ai fait une lecture... de The Order of the Day, de Eric Vuillard,
and beautifully translated,
dans une très belle traduction.
I found it one of the most remarkable
et il m'a semblé qu'une des choses les plus remarquables que j'avais lues récemment, c'était ce livre, car l'auteur parle quelque part d'une façon cinématographique et en même temps simple. Il vous montre une vaste pièce. On est dans les années 30, dans l'Allemagne qui s'industrialise. Et puis, il y a comme un gros plan dans la phrase d'après. Tout d'un coup, il s'approche de quelqu'un qui crie. Et donc, tout d'un coup, ça devient assez simple. Parfois, le cours de la flot part dans un autre sens et l'histoire progresse ailleurs. Et je recommande vraiment. Enfin, je sais que c'est un livre qui a été primé, mais c'est vraiment un super bouquin.
Si je comprends bien, vous recommandez votre livre à vous parce que vous venez de lire celui d'Éric Vuillard. Tout ça,
l'ordre du jour.
Oui, l'ordre du jour. Tout ça fait absolument sens. Michael.
Mais non. I just think mine is quite a well-written book.
Disons que je trouve que le mien est pas mal écrit. Et je suis quelqu'un de modeste, vous savez.
Michael Lindsay-Hogg, pour ce qui est du cinéma, deux titres vous sont immédiatement venus à l'esprit. Non pas un des films ou documentaires que vous avez vous-même réalisé, mais un Rossellini et un Kazan. Alors nous avons gardé le Kazan sur les quais, on the waterfront, avec Marlon Brando. Charline, vous auriez pu, comme Marlon, être un challenger, être quelqu'un, quoi.
Non, car je n'ai rien d'un jeune docker, ancien boxeur, manipulé par mon frère. Avocat du syndicat des dockers, dirigé par le crapuleux et mal nommé Johnny Friendly, et je n'ai pas non plus assisté sans intervenir au meurtre d'un employé qui voulait dénoncer les méthodes illégales de ce dernier.
Extrait.
You was my brother, Charlie. You should have looked out for me a little bit. You should have taken care of me just a little bit so I wouldn't have to take them dives for the short end money.
Well, I had some bets down for you. You saw some money.
You don't understand. I could have had class. I could have been a contender. I could have been somebody. Instead of a bum, which is what I am, let's face it.
Extrait du monologue mythique hein, de Brando dans On the Waterfront sur les quais d'Elia Kazan. Pourquoi est-ce que ce film vous a marqué à ce point, Michael?
Oh, because it's a fabulous picture.
Parce que c'est un film fabuleux.
And because Marlon Brando,
aussi parce que Marlon Brando
is a great artist.
C'est un grand artiste. J'ai vu le film, j'avais 14 ans, et je cherchais quelque chose comme un modèle pour me construire. C'est ce qu'on fait quand on est adolescent, qui, à qui ressembler. C'était pas Terry Malloy, le personnage, ce boxeur qui raccroche, non. Je voulais être Marlon Brando, qui avait cet extraordinaire charisme, et puis qui est beau.
One thing that struck me is
ce qui m'a frappé, j'avais 14 ans donc, et Brando avait 32 ans. Mais quand le rock est apparu, 8, 9 ans plus tard, le public, les gens comme moi, avait le même âge que les gens qui étaient sur scène. Jagger avait 21 ans, et donc c'était beaucoup plus proche comme écart d'âge entre le modèle et les gens qui le regardent.
Bien. Michael Lindsay Hogg, pour ce qui est des séries télé, vous nous avez proposé trois titres, hein, deux séries et une émission. Nous avons choisi Upstairs, Downstairs, c'est l'ancêtre d'une certaine manière de Downton Abbey, puisque la série originelle a vu le jour dans les années 70, une décennie avant la venue au monde de Charline Roux. Qu'en dire d'autre, Charline ?
Qu'en réalité, j'y suis née dans cette décennie. La série s'appelle Maître et Valet en français, c'est un excellent résumé, puisqu'elle raconte la vie entre 1903 et 1930 des Bellamy, une famille aristocratique anglaise, et de leurs domestiques, dans la maison qu'ils partagent, seulement séparés par les escaliers.
Générique.
Et donc là, Michael Lindsay Hogg, plus Upstairs, Downstairs que Downton Abbey, donc.
J'ai choisi Upstairs, Downstairs, Maître et Valet. Parce que c'est deux actrices anglaises, Jean Marsh et Aline Acton, qui l'ont créé. Jean Marsh avait gagné alors l'Emmy. Mais le plus important, c'est qu'on habitait dans la même maison pendant 12 ans. Et on se connaissait depuis 50 ans maintenant aujourd'hui. Je lui parle au téléphone tous les jours, où que je sois dans le monde. C'est mon amie la plus proche, et une grande actrice, et la créatrice de cette série, qui effectivement est le grand-père de Downton Abbey. Oui.
La grand-mère, bien. Enfin, pour la musique, là encore, vous n'aviez que l'embarras du choix, vous qui avez filmé le Gotha du rock, mais finalement vous prenez Paperback Writer des Beatles en 66, chanson dont vous avez par ailleurs réalisé le clip à l'époque.
Paperback Writer.
J'ai donc en face de moi Michael Lindsay Hogg, l'homme qui a réalisé le premier clip des Beatles, Paperback Writer. Ça vous fait quoi de réécouter ça aujourd'hui ?
J'ai eu la chance que j'étais à Londres à cette période-là, dans les années 60, où vraiment je ne recevais que des éclairs de génie. Il y avait les clips des Beatles, des Rolling Stones, et puis je revenais aux Beatles, et puis je passais au à Rock and Roll Circus. Paperback Writer, c'était le premier que j'ai fait, effectivement, avec les Beatles, la première vidéo. Ceux qui ont suivi étaient meilleurs, je crois. Mais ça a été un bon départ. Et c'est là où j'ai rencontré les Beatles pour la première fois. Et ils étaient alors les gens les plus célèbres du monde. C'est difficile, presque, aujourd'hui, de se rendre compte d'une célébrité aussi rapide. Instagram, Facebook, Twitter, c'est commun aujourd'hui. Mais la façon de devenir célèbre à l'époque, il y en avait beaucoup moins de moyens. Les journaux, la télé, la radio, les magazines. Pas de médias sociaux. Cependant, la célébrité pouvait arriver beaucoup plus fort parce qu'elle durait et elle ne serait pas remplacée par une Kardashian qui apparaît et toutes les 5 minutes. Donc, quand j'ai rencontré les Beatles pour la première fois, ils sont devenus tellement proches que presque ils étaient comme des personnages de dessins animés qui étaient là, qui rentraient, comme Donald, comme Mickey, si vous voulez. Bugs Bunny.
Bien, alors je résume Luck and Circumstances. Sur les quais, Upstairs, Downstairs et les Beatles. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture et ça nous donne ça.
I had some bets down for you. You saw some money.
Paperback Writer.
You don't understand.
Really like it, you can have the rights. You could make a million for your own life.
I'd like to thank you on behalf of the group and ourselves, and I hope we passed the audition.
Voilà un morceau de l'histoire de Michael Lindsay Hogg que nous venons de résumer et qui résume une grande partie de l'histoire de la pop culture dont nous allons parler aujourd'hui. Michael Lindsay Hogg, avant de parler de votre exposition qui se déroule en ce moment même à Paris, je vous propose d'écouter totalement par hasard les Beatles et ce morceau Let It Be. C'est encore plus par hasard ça.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Let it be.
Pop, pop, pop. Antoine de Caunes
et Joséphine. Beatles, Let It Be et Stones sont les premiers résultats qui tombent quand je tape votre nom, Michael Lindsay-Hogg, sur Google. Et c'est bien normal pour les raisons que nous avons expliquées précédemment. Sir Michael Lindsay-Hogg, les sujets de conversation avec vous ne manquent pas, puisque, comme on dit chez nous, vous avez plusieurs casquettes. Réalisateur, metteur en scène, écrivain, acteur, dessinateur et peintre aussi. Avons-nous choisi d'en rester à votre actualité immédiate, l'exposition de vos toiles à la galerie Pixie à Paris jusqu'au 21 décembre. Et au fond, c'est sous cet angle-là qu'il convient de vous aborder. Vous êtes avant toute chose un artiste.
Oui, voilà, je porte plusieurs casquettes, comme on dit aussi en Amérique. La galerie Pixie, Marie-Victoire Polyakov, qui est à 95 rue de Seine, effectivement, a ouvert cette exposition. J'ai eu d'autres expositions en Amérique, à Hollywood, au Texas, à Londres. Mais celle-ci, c'est celle qui a été le mieux préparée et la mieux conçue, l'accrochage. Parce que je dessine et je peins. Certains dessins sont minuscules. Et je dessine également sur des rouleaux de papier toilette. Et parfois sont tout petits comme mon ongle. Et parfois c'est comme des tableaux de taille normale. Et j'aime beaucoup l'accrochage.
Je vais me charger des questions triviales. Quand vous remplissez des formulaires administratifs, vous écrivez quoi en face de la case métier ?
Occupation. What do you write for your occupation?
It changes.
Ça dépend.
Today it could be.
Aujourd'hui, ça peut être quelqu'un qui a un rhume.
Or it, tomorrow it could
demain,
be a person who is sleeping.
Quelqu'un qui est endormi.
On parlait de romans en ouverture d'émission, en évoquant votre vie. Est-ce que vos dessins, vos peintures, vos collages sont une manière d'illustrer votre vie, ou bien ont-ils leur existence propre?
Ça, c'est intéressant comme question. Parfois, j'ai l'impression que mes dessins et mes peintures sont ma version de l'écriture d'un roman. Que les personnages que je crée, ont quelque chose à voir avec moi. Bien sûr, ils viennent de mon imagination. Mais plutôt que de les décrire dans des scénarios, avec des mots, je les mélange, je les combine. Parfois, c'est un homme, une femme. Et parfois, avec même une petite citation, quelques mots que je crie également dans le tableau. Comme je l'ai dit, parfois, je me dis que je peux ne m'intéresser qu'à des personnages. Je ne suis pas sur les paysages, l'abstraction, tout ça. Je sais bien que ça existe. Un de mes peintres préférés, c'est Cy Twombly. Et vraiment, je ne fais pas du tout de la même chose. Des gens qui m'intéressent, tout ça. Parfois, dans mes tableaux, les gens ne s'entendent pas. Quelque chose se passe entre eux et on n'arrive pas bien à comprendre où ça va tourner. Mais on sait qu'il y a un problème entre eux.
But I'll tell you, they're wonderful.
Mais sincèrement, ils sont géniaux, ils sont bien.
Wes Anderson fait donc partie de vos amis et surtout de vos fans. Et sur le site de la galerie Pixie, on peut l'entendre dire ceci.
Michael is well known for his work as a director of a film and a theater, but perhaps less well known for his portraits, his drawings and paintings, which I have admired very much for many, many years.
Il se désole qu'on vous connaisse davantage comme réalisateur et metteur en scène que pour vos portraits. Est-ce que cette injustice est aujourd'hui réparée ?
Mais quelle injustice ?
Il a l'air de penser que c'est une injustice.
Mais non. J'ai la chance d'avoir eu tellement de carrières différentes. Tout ce que j'ai fait autour du rock'n'roll, bon, ça parle pour soi-même. Bon, j'ai rencontré beaucoup de gens célèbres. Mais j'ai eu aussi du succès à la télévision britannique. Modestement, j'ai été nominé pour 4 BAFTA, les Césars de la télévision et du cinéma anglais. Au théâtre à New York, j'ai eu la chance de mettre en scène la première production de la première pièce de Larry Kramer sur le sida, The Normal Heart, à un moment où le sida commençait à vraiment faire peur à toute la société. Et Larry a eu le courage de partir en croisade et d'en parler dans une pièce de théâtre. Et donc j'ai eu la chance de croiser des gens de toutes sortes et de projets de toutes sortes. Et puis j'ai réalisé mes propres films avec Angie McDowell. C'était un film pas mal. J'ai écrit ce livre de mémoire. J'ai peint et j'ai dessiné toute ma vie, mais bon, plus ces dernières années peut-être.
What do you do if you don't do something?
Qu'est-ce qu'on fait si jamais on ne fait rien? Rien.
Michael, revenons justement à cette peinture. Beaucoup de portraits dans lesquels on retrouve l'influence de Berkeley, de George Gross ou de Richard Lindner et aussi de ces bandes dessinées que vous dévoriez quand vous étiez enfant. Est-ce que ce sont là vos références?
Oui. Very interesting question.
Très bonne question. Je n'ai pas pu lire avant l'âge de 9 ans. Je ne conduis pas, même aujourd'hui. Il y a quelque chose dans mon cerveau qui ne fonctionne pas. Et donc la littérature, qui était ma littérature, enfant, c'était les bandes dessinées. Et cette histoire, je la comprenais par les cases, les deux personnes, le gros plan, le cadrage, les bulles qui sont en haut de la case. Et c'est un trésor pour moi, la bande dessinée. Oui, ces bandes dessinées qu'on dit en France, n'est-ce pas? Et puis il y a de tous les genres, il y en a pour les adultes, il y en a pour les enfants, il y a les côtés marrants. C'est pour moi très important. Wes en parlait tout à l'heure, qu'il n'y a pas de division entre la pop culture et la vraie culture. Je crois que la BD, c'est aussi important que la littérature. Mais bien sûr, elle est très lèvre maintenant. La BD est très forte.
Votre premier choc esthétique.
Charlene.
Vous ne m'avez pas préparé. Pourquoi vous m'avez donné les questions avant? J'en sais rien. Je ne sais pas. J'ai grandi catholique.
Ça en fait un bon.
C'est une excellente raison. Bon, et puis, bien sûr, si l'on en croit le texte du catalogue de l'exposition, on trouve aussi la trace de celui dont vous avez un jour appris qu'il était sans doute votre père biologique, Orson Welles. Orson Welles qui lui aussi dessinait énormément. Et il paraît qu'il y a de troublantes similitudes entre ses productions et les vôtres. Vous l'avez vérifié, ça?
Il dessinait. C'est drôle. Son écriture manuscrite et la mienne sont comparables. Il était prolifique, pas seulement par ses films, mais aussi ses dessins, ses scénarios. C'était aussi dans sa nature, dans son personnage. Il n'y avait rien de plus délicieux, de fort pour lui que de passer du temps avec lui. Comme par exemple dîner avec lui quand il ne travaillait pas. Il était sage. Il était généreux. Il avait eu beaucoup de déceptions dans sa vie. Il faut penser à un homme d'un tel talent qui sans cesse a été déçu des projets qui n'ont pas réussi à aboutir. Et il parlait de ses projets avec une compréhension bienveillante du monde. Et de ses difficultés, du succès, et le fait qu'il existe pour tout le monde, et on ne sait pas le voyage que l'on suit quand on part en regardant ces films.
Il paraît que quand vous téléphonez, il y a à côté de vous systématiquement un carnet dans lequel vous dessinez compulsivement. Alors, est-ce que c'est vrai? Et puis, si c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous dévoiler vos derniers croquis de téléphone?
Oui, je dessine tout le temps.
Vous avez un carnet.
Là, j'ai un petit carnet. Voilà, vous avez vu les deux personnages là. C'est pas Antoine et Charlene, mais
c'est Arsène.
Mais bientôt, quand je quitterai ce studio, je les dessinerai. Mais effectivement, je dessine tous les soirs après mon dîner. Je fume un cigare et je dessine.
Michael Lindsay-Hogg, il y a tellement de sujets qu'on pourrait aborder avec vous que je vous propose une chose, c'est de revenir faire deux, trois autres émissions. Parce qu'il y a tellement d'histoires à raconter autour de la musique, autour de l'art, autour de la littérature, du cinéma, de la télévision, que je ne peux pas épuiser ce sujet en quelques minutes. Est-ce que vous reviendrez?
Vous voulez demain?
Demain, si vous voulez, oui.
Bon, ouais, peut-être.
Okay.
La semaine prochaine.
Ou la semaine prochaine. Bon, en attendant, vous restez avec nous dans cette émission. Vous savez faire plein de choses. Est-ce que vous savez faire ça?
Je sais comment on le fait.
Like ouais.
Bon, j'ai beaucoup de choses de là,
je vous le refais. C'est juste pour lancer les pop news.
Natasha Romanoff est de retour et les fans du MCU, soit le Marvel Cinematic Universe, en frémissent déjà de plaisir puisque Natasha Romanoff, c'est Black Widow, incarnée par Scarlett Johansson, qui a donc désormais droit à son épisode à elle toute seule.
Il paraît que vous avez dû partir précipitamment.
Rien n'est facile de nos jours.
Alors vous comptez faire quoi?
J'ai vécu des tas de vies, mais je ne fuirai plus mon passé.
Je sais très bien que t'es là.
Je sais que tu sais que je suis là.
Et si on discutait entre adultes? On est des adultes?
Ravie de te voir aussi, petite sœur.
Et qu'est-ce qui t'amène ?
Et Black Widow déboulera avec perte et fracas le 29 avril dans les cinémas.
Selfie, le film à sketch brocardant nos usages abusifs des technologies, continue de se dévoiler en teaser. Après Blanche Gardin, youtubeuse, voici Manu Payet, addict aux ventes en ligne.
Tu vois, moi j'achète tout sur ce site. Et à chaque fois qu'il me recommande un nouveau truc, j'aime. Jusqu'au jour où l'algorithme me recommande...
Qu'à la pêche.
Ils ont vu que j'avais la pêche en moi. Ils savent mieux que moi ce que j'aime. Alors j'achète tout. C'est bizarre, c'est parce que j'ai pas de problème de...
T'as peut-être trouvé.
Attends, c'est quoi ce bordel? Pourquoi tout est en portugais?
Pour dérouter l'algorithme, on me fait d'autres recommandations.
Pourquoi tu le commandes pas, ce putain de traitement?
Parce que je veux pas leur céder.
Donc on ne vendra plus jamais dans cette maison.
Et Selfie de Vianney Le Basque, Thomas Bidguin, Marc Fitoussi, Tristan Horouet et Cyril Glebla sortira le 15 janvier. Évidemment, on compte sur vous pour en reparler.
Et voici les grands gagnants musicaux, non pas de l'année, mais de la décennie. On parle de nombre de streams, puisque Spotify, géant de l'écoute en ligne, vient de dévoiler la liste des artistes les plus écoutés ces 10 dernières années. Et la chanson la plus streamée, avec 2,3 milliards d'écoutes, c'est celle-ci. I'm in love with the shape of you. Shape of You d'Ed Sheeran est l'artiste le plus streamé, tout titre cumulé avec 28 milliards d'écoutes, c'est lui. Drake, artiste de la décennie en termes d'écoutes, champagne papy et prend sa cagnée.
France Inter, Popopop, Antoine Decaune.
Yes, it's me.
C'est Drake ?
Bah évidemment.
Ouais, bravo, pas... Il est excellent là, Drake,
bravo,
du coup, c'est très
Charline.
Étonnant.
Michael Lindsay-Hogg, vous restez avec nous avant d'accueillir Violaine Huissement dans la suite de Pop Pop Pop. Écoutons Tiaba les Stones avec ce morceau Miss You, dont le clip a été réalisé par un certain Michael Lindsay-Hogg.
I've been hanging on the phone, I've been slipping all along.
title is borrowed to Proust.
Mm-hmm. Nous sommes tous... Je vous écoutez, pop, hein, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon. Et nous sommes toujours en compagnie de Michael Lindsay-Hogg, et vient de nous rejoindre Violaine Huissement. Bonjour Violaine.
Bonjour.
Vous êtes de retour dans pop, pour nous présenter Rose Désert, votre nouveau roman édité chez Gallimard. Nous nous étions littéralement emballés, hein, il y a presque 2 ans, pour Fugitif parce que Reine, et nous n'étions pas les seuls à en croire les prix que vous avez récoltés au passage. Un livre qui racontait les rapports, disons, difficiles avec une mère, disons, spéciale. Votre héroïne était une femme, une mère vue à travers les yeux de sa fille, une petite fille qui a grandi, qui est à son tour héroïne de roman, puisqu'elle est la narratrice de Rose Désert, même si la fameuse reine, la reine-mère donc, reste présente en filigrane. C'était pas à Michael Lindsay-Hogg que je le dirais, on n'en a jamais fini avec ses parents?
Non, jamais. Jamais, et en fait, vous le décrivez très bien, mais ce que j'avais envie de faire dans Rose Désert, c'était de reprendre les personnages de Fugitive et de les réorganiser, en fait, de raconter le roman de la fille de Catherine, et qui devient à son tour, comme vous le dites, le personnage principal du roman. Et c'était d'une certaine manière pour raconter aussi qu'on est... Voilà, on ne vient pas de rien, on ne vient pas de nulle part, on vient d'une histoire qui est l'histoire de notre pays, de notre culture, mais qui est aussi l'histoire de notre famille. Et donc pour les personnes qui avaient déjà lu Fugitive, c'est comme une suite du premier roman. Et pour les personnes qui ne l'ont pas lu, c'est un livre qui se tient à part entière.
Est-ce que ça veut dire que c'est l'amorce d'une saga familiale que vous imaginez développer sur la longueur ?
D'une certaine manière, oui. En fait, j'imagine une famille de personnages comme il peut y en avoir, pour très humblement citer des auteurs, des auteurs comme ça passe partout, comme Proust.
Oui, au hasard, oui.
Au hasard.
Ouais. L'auteur de Fugitif parce que Reine. Hein.
C'est ça, rappelons l'auteur de la phrase Fugitif parce que Reine. Ou Albert Cohen, qui est un auteur qui a beaucoup compté pour moi aussi, qui développe comme ça à travers leur œuvre des familles de personnages. Et le prochain livre, j'imagine, quelque chose de très différent qui ne fera pas partie de cette série de livres qui pour moi se clôt avec Rose Désert. Mais oui, comme ça, une famille de personnages.
Antoine le disait, le titre Fugitif parce que Reine est emprunté à Albertine disparue. Ce Rose Désert, est-ce que c'est une référence à Rose Poussière de Jean-Jacques Schoul? Et si oui, qu'est-ce que ça raconte?
Oui, c'est. J'ai pensé à Jean-Jacques Schoul en écrivant ce livre et en choisissant ce titre. Rose Poussière parle de l'identité, de la perte d'identité dans une culture de masse. Et je voulais revenir sur cette notion d'identité et l'examiner à travers ce personnage qui est perdu en elle-même et qui ne sait plus très bien qui elle est, où elle va. Et après, ce rose, c'est aussi, comme le roman le raconte, la plus vieille couleur au monde qui a été retrouvée par des géologues qui étudiaient des fossiles de plancton dans les sables du Sahara, qui, dans la période préhistorique, étaient des lacs. Et à travers l'étude de ces fossiles, ils ont retrouvé un rose profond qui serait la plus vieille couleur au monde. Donc ce rose du désert, c'est ça aussi.
Il y a une double histoire dans Rose Désert, hein, celle d'un périple en solitaire en Afrique, principalement dans une zone à haut risque comme la Mauritanie, direction le Sénégal où la fameuse mère a passé les dernières années de sa vie. Périple qui est la conséquence d'une rupture amoureuse à New York, évoquée à travers des flashbacks à haute puissance érotique, et racontée par une narratrice dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne se ménage pas.
Non. Elle ne se ménage pas. Et en fait, ce que je voulais raconter aussi, c'est l'histoire de cette jeune femme qui décide de traverser l'Afrique, donc qui fait du tourisme dans cette région complètement improbable, où c'est non seulement dangereux, mais un peu absurde, en fait, d'essayer de partir comme ça en solitaire. Et voilà, je voulais raconter cette histoire pour deux raisons. Deux raisons un peu politiques, en fait. La première, c'est que on fait face aujourd'hui à des problèmes migratoires qui sont complètement contraires au voyage qu'elle fait, elle, qui sont à l'inverse. Et aussi, par ailleurs, parce que c'est le voyage d'une femme seule à travers un pays où ça ne se fait pas, en fait. Et dans ce paysage-là, ça devenait beaucoup plus facile d'expliquer en fait à quel point c'est compliqué pour une femme de se promener seule où qu'elle soit dans le monde. Et j'avais envie de parler de ça, de la condition féminine aussi. Mmh. Et pour moi, tout revient dans le livre un peu à cette question-là aussi, même dans les passages, comme vous le dites, à caractère érotique. J'avais envie de raconter l'amour aussi dans la voix d'une femme, d'écrire un roman qui est véritablement écrit dans une voix féminine, sans pour autant du tout être fleur bleue. D'où Rose Désert aussi, qui serait un peu l'inverse de la fleur bleue.
C'est réussi.
C'est un livre dans lequel il est beaucoup question de pulsion, pas seulement érotique, y compris dans le voyage entrepris par l'héroïne. Est-ce que vous l'avez aussi envisagé comme un récit d'apprentissage ?
Oui, j'avais un peu envie que ce soit comme un roman d'apprentissage renversé ou un roman d'initiation renversé où, en fin de compte, on n'est pas très sûr de ce que la narratrice a appris, mais elle a voyagé. Et à la fin du roman, il y a ce moment un peu d'épiphanie qui permet d'entrevoir de la lumière, une espèce de zone d'espoir, sans pour autant que tout soit devenu clair ou limpide, comme dans les livres un peu codifiés comme ça, où les choses se passent de manière un peu comme une formule.
Puisque je vous tiens tous les deux, Violaine, Michael, j'ai une question. Je sais que vous avez brillamment tous les deux passé vos examens, mais j'ai une question à laquelle je vais vous soumettre et qui vous concerne. Oscar Wilde a dit « La vie imite l'art bien plus que l'art n'imite la vie ». Est-ce que vous vous sentez en accord avec ça ?
Oui, complètement. Et pour moi, en fait, les livres que j'écris sont très autobiographiques et pour autant complètement des fictions. C'est-à-dire que dans la vie, rien ne se passe comme ça de manière aussi artistique et aussi si bien agencée et aussi crédible. Mmh. Et c'est ça la magie de l'art, de faire comme si c'était la vie, comme si c'était plausible et vraisemblable, alors que tout est toujours beaucoup plus bordélique dans la vie.
Michael Lindsay-Hogg, même question.
Je crois que Violaine a vraiment raison. J'ai l'impression que tous les grands artistes, en fin de compte, racontent leur monde, leurs histoires, mais en morceaux. Proust, Tolstoy, c'est leur vie qu'ils racontent. Guerre et paix, c'est vraiment Tolstoy, je crois, qui est dans le roman. Il y a d'autres auteurs qui font plutôt des romans de genre, ce qui est vraiment fantastique, les policiers, tout ça, où il faut trouver une histoire sans particulièrement s'y plonger eux-mêmes en tant qu'auteurs. Mais je crois que les grands auteurs, c'est l'auteur, il se met dans son livre. Bien sûr, transformer. Bien sûr, les jeunes deviennent les vieux, etc. Il s'agit de passer par un prisme, je crois.
J'ai la réponse à ma question, une question qui me taraudait depuis ce matin. Et je vois l'heure tourner et je me dis aussi que c'est l'heure d'aller chercher mon dernier vinyle. Allez, je me dirige vers mon ascenseur. Mm-hmm. Pourquoi il y a 22 ascenseurs aujourd'hui ? Ah mais oui, bien sûr, c'est l'ascenseur de l'avant. Bon, alors ouvrons celui du jour le 3 décembre. Didier, mais qu'est-ce que vous faites là ? D'abord, c'est deux cônes, c'est pas du con.
Ouais, ta gueule ! Hé, hey, dis donc, c'est bien ? T'as joué du Dick hier ?
Oui, c'était extrait de l'album Authentique.
Waouh ! Une pépite ! Un des meilleurs ! Eh, mais je suis pas là pour ça ! Du coup, c'est bon ? T'as compris la règle ? C'est un Dick par jour !
Oui, mais enfin, là, on est avec Michael Lindsay-Hogg, qui a réalisé des clips pour les Beatles, les Stones, les Wings.
Et Dick ?
Non, je crois pas, non. Non.
Quoi ? C'est pas lui ? Twist à Saint-Tropez ?
Ah non, j'ai vérifié, c'est pas lui,
oh,
non.
Oh putain !
Non mais, Didier, non, calmez-vous. Bon, allez, envoyez les Beatles, Revolution, ça va le calmer. Allez. Evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. All right.
got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. All right. Institution. Well, you know, you better free your mind instead.
Revolution, les Beatles, c'était en 69 et aujourd'hui dans Pop 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 sur France Inter en présence de Sir Michael Lindsay-Hogg qui en a réalisé aussi le clip. Merci Sir Michael Lindsay-Hogg, je rappelle que votre exposition est à la galerie Pixie à Paris. Quelle est l'adresse exacte?
Rue de Saint-Père.
95 rue des Saint-Père à Paris dans le 6e.
Rue des Saint-Père à Paris dans le 6e et c'est jusqu'au 21 décembre. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci Violaine Huissement, Rose Désert, c'est chez Gallimard, et c'est évidemment toujours chaudement recommandé par Pop Pop Pop. Merci de nous avoir rendu visite. Merci aussi à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Selim Guéridi, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka, la traduction Harold Manning, et Raphaël Harry, notre stagiaire. Demain dans Pop Pop Pop, le directeur artistique de la maison Balmain, Olivier Roustin, et la réalisatrice Anisa Bonnefond. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuv ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme dit Didier à la fin de ses tutos baseball sur YouTube.
Hey, du con ! Abonne-toi à notre podcast !
Oui, ça veut dire abonne-toi à notre podcast et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials, 3615 pop 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 sur Instagram et Twitter.